La pointe d'Arbola, par Édouard Rode. Mon vieil ami le conseiller Lacoudre ne m'avait point trompé en me promettant que je ne perdrais pas mon temps à la cour d'assises. Mais ce qui m'intéressa plus encore que l'affaire elle-même, un assassinat conjugal où les plus vils motifs d'intérêt cherchaient à se dissimuler sous l'excuse passionnelle, ce fut la manière dont il conduisit les débats. Je croyais le connaître, et n'aurais jamais soupçonné sa terrible clairvoyance. Il m'avait placé derrière lui, en sorte que je ne voyais pas ses petits yeux gris posés sur l'accusé. Mais j'apercevais par moments son profil d'un dessin si net qui se tendait en menaçant. J'entendais l'autorité de son accent convaincu qui imposait la certitude. Surtout, je voyais son dos massif, que l'âge commençait à peine à voûter, et qui par moments se renflait avec une puissante expression de mépris, de colère et de vengeance. Chacune de ces questions faisait ressurgir la vérité qui se dégageait peu à peu avec une horrible évidence. On eût dit qu'il lisait derrière le front du misérable debout devant lui, dont l'âme hideuse apparaissait peu à peu, avec ses tares les plus secrètes, ses souillures honteuses, ses replis tortueux où le crime avait rampé. Il mit une sorte de férocité à déchirer le roman imaginé par la défense. Il n'en laissa que des lambeaux, qui prirent une couleur mêlée d'odieux et de ridicule et lui servirent à mieux étaler l'infamie du faux Othello qui avait joué sa dernière carte sur une fin de jalousie. Si, par exception, les jurés parisiens condamnèrent comme un vulgaire assassin qu'il était en réalité ce coureur de tripots élégant qui avait cru pouvoir tabler sur leur sensiblerie, ce fut grâce à cet interrogatoire décisif dont toute l'habileté d'un avocat rompu à de telles causes ne put détruire l'impression. En sortant du palais, le conseiller m'emmena dîner chez lui, dans le bel appartement sévère qu'il occupait au quai de Béthune, depuis la mort de sa femme. Dîner modeste, servi rapidement par un domestique qui semblait d'un autre âge, comme les boiseries, les meubles et les cuivres. Il disparut quand il lui apportait le café. Nous continuions à échanger nos impressions d'audience. C'est à peu près à ce moment qu'en rappelant au magistrat quelques traits de son interrogatoire, je m'écriai. Où donc avez-vous appris à lire ainsi dans les ténèbres du cœur, à y découvrir des pensées qui n'affleurent jamais, qui produisent peut-être leur effet sans jamais être formulées? Le conseiller passa sa main sur son front. Sa grave figure prit une expression douloureuse. Je vis frémir ses lèvres comme si elles hésitaient à s'ouvrir, et ce fut en quelque sorte malgré lui, en obéissant à une de ces impulsions qui gouvernent souvent nos actes, ou nous dictent nos paroles en dehors de notre volonté, qu'il me répondit lentement, d'une voix très basse, sans me regarder. Si je sais lire dans le cœur des autres, c'est qu'une fois, dans une heure tragique, j'ai lu jusqu'au fond du mien. Cette réponse était tellement inattendue que je ne trouvais pas un mot pour la relever. Le conseiller resta silencieux un long moment, le menton dans sa main, rêvant ou réfléchissant. Il reprit enfin, et sa voix semblait venir de très loin, traverser beaucoup d'espace ou des obstacles. « Oui, j'ai vu le tréfonds de mon cœur, j'en ai mesuré l'abîme. Je sais quelles monstrueuses pensées peuvent éclore en nous. Je sais l'étroit espace qui les sépare de l'action. Le hasard qui parfois les empêche seuls d'éclater en crimes irréparables. Et quand je pense à la tentation qui s'abattit un jour sur moi, qui suis un honnête homme... » Il n'acheva pas sa phrase. Il voulait dire sans doute... Quel calcul abominable me semblerait impossible dans l'âme d'un gredin. Il passa de nouveau la main sur son front et dit « Voici d'ailleurs cette histoire. Vous l'écrirez quand je serai mort, s'il vous plaît de la publier. En la dénaturant assez, n'est-ce pas, pour que personne n'en devine le triste héros. » J'acceptai d'un signe de tête cette condition dont je me souviens en traçant ces lignes. Tout le détail en est fictif. Il n'y a de vrai que le fait lui-même. Et l'on trouvera peut-être que c'est assez. Aucun de ceux qui ont approché mon vieil ami ne le reconnaîtra. Qui sait si plusieurs ne retrouveront pas ici, à travers des circonstances trop particulières pour s'être souvent reproduites, des traits permanents d'eux-mêmes et comme une image de leur faiblesse. C'était au début de ma carrière. J'étais juge d'instruction. J'avais un ami, un de ces amis, qu'on n'a qu'une fois dans la vie. Il se nommait Étienne. Nous nous connaissions dès la petite enfance. Les circonstances avaient secondé notre sympathie naturelle. nos idées et nos goûts, qui se ressemblaient, s'étaient développés pareillement à travers de mêmes études et de mêmes aventures. Nous avions fait la guerre dans la même compagnie de mobiles, nous avions été pris ensemble par les Bavarois et envoyés dans la même forteresse. Nous disions quelquefois que nous étions nés sous la même étoile et que la destinée ne nous séparerait jamais. Très différents l'un de l'autre, d'ailleurs, sous bien des rapports. J'étais grand, vigoureux, de complexion robuste. Étienne était petit, plutôt faible, souvent malade. Mais au moral, c'était l'inverse. Je le sentais meilleur que moi. Sans soupçonner combien. Je me mariai, j'eus un enfant. Notre amitié n'en fut point atteinte. À peine nous voyions-nous moins souvent. Il avait son couvert à notre table, il plaisait à ma femme, il fut le parrain de mon fils, ce fils unique que j'ai perdu. Le conseiller ne s'attarda pas à ce douloureux souvenir et continua son récit. Entre autres goûts communs, nous aimions la montagne. L'alpinisme n'était pas alors un sport à la mode comme aujourd'hui. C'était, si l'on peut dire, la fin de son époque héroïque. On trouvait encore des cimes vierges, des excursions inédites. On n'avait pas encore construit des cabanes un peu partout, ni planté des crampons aux endroits difficiles, et l'on pouvait parcourir les vallées alpestres sans y rencontrer des bandes de cooks, dont l'aspect grotesque et les allures bruyantes suffisent à gâter les plus beaux paysages. Il n'y avait pas, dans les moindres stations, des guides patentés ou dressés à la bonne école. Il fallait souvent tailler soi-même ses pas dans le glacier ou compter sur sa propre initiative pour traverser les vives ou grimper les cheminées, en sorte que l'effort et le danger ajoutaient leur piment au plaisir. Pendant les deux premières années de mon mariage, je passais mes vacances chez les parents de ma femme, à la mer, et nos courses alpestres se trouvèrent interrompues. Mais la troisième année, Étienne et moi résolûmes de les reprendre, au moins pour quelques jours. Nous choisîmes pour centre de nos excursions la vallée de Pine, où l'on accédait alors de la route de la Furka que par un chemin à mulet. Il serait difficile d'imaginer un endroit plus pittoresque que cette petite vallée, que les montagnes ferment de tous côtés, sauf de celui où le torrent a creusé sa gorge vertigineuse. Je ne connais qu'une dans les Alpes qui donne avec plus d'intensité l'impression de l'isolement en hauteur, loin du monde. De très vieux chalets, brunis par le temps, s'y rangent en ruelles étroites le long de la Bina, que traverse un vieux pont en dos d'âne gardé par une petite chapelle, tandis que plus loin, sur les pentes, d'autres chalets entourent une église blanche à fin clocher. Ce paysage est à jamais gravé dans ma mémoire. Je n'ai qu'à l'évoquer pour le revoir avec une netteté surprenante, avec le vert de ses prés abrupts, ses bouquets de sapins ou de mélèzes, ces sentiers raides que gravissent de fortes femmes, chargées d'énormes fardeaux et toujours la pipe à la bouche. Les cimes voisines, à l'exception peut-être de Höllehorn, ne sont guère difficiles, des montagnes à vaches, comme disent dédaigneusement les professionnels, qui dépassent à peine 3000 mètres. Mais leurs lignes se croisent et se succèdent avec une rare beauté. Leurs rochers ont des couleurs foncées que je n'ai vues que là, et surgissent des glaciers aux reflets magnifiques. Nous les parcourions allègrement, Étienne et moi, avec notre corde et notre piolet, sans mêler à notre joie de retrouver la montagne aucune des préoccupations de pose qui guettent trop souvent l'alpinisme. Nous allions selon notre fantaisie, escaladant les rochers, traversant les glaciers, dormant dans les pâturages, tantôt sur le versant suisse où l'Alpe est plus sévère, tantôt sur le versant italien où elle s'épanouit avec plus de grâce. Mon vieil ami s'interrompit un instant la main devant ses yeux, comme s'il revoyait le beau paysage, puis il reprit. Un jour, nous étions partis sans but précis, en nous disant seulement que nous ferions quelque chose. Par une exquise matinée où les prés, les forêts, les rochers semblaient transparents dans la lumière, nous remontâmes sans effort ni fatigue le cours de la Bina, par des vallons scintillants de rivières et de rosées, où s'attardaient les dernières fleurs de la saison. Des touffes bleues d'aconites, les étoiles des astères et des arnicas, quelques rhododendrons pâlissants, et plus haut, dans les éboulis, des mousses roses et des saxifrages plus fines que des dentelles. Nous arrivâmes ainsi jusqu'au col d'Albrun. Il est rocailleux, sauvage et triste, comme presque tous ses hauts passages, dominé par l'Offenhorn, qu'on appelle aussi la pointe d'Arbola, et qui présente de profil au-dessus du glacier du Haussand son sommet divisé en 4 cimes à peu près égales. Ces cimes ne sont que des rochers. Leur dessin est sobre et puissant. Elles semblent presque noires, mais d'un noir translucide, d'un noir de diamant. Et elles nous appelaient. Ce fut Étienne qui eut d'abord l'idée de les attaquer. Il les examina un moment avec sa lunette, scruta leur replat et leur saillie, en choisit une qui semblait traverser en biais une longue cheminée, et me dit « Si nous abordions celle-là » J'acquiesçai aussitôt « Pourquoi pas ?» Et nous nous mîmes en route après avoir cassé une croûte et bu quelques gorgées de l'eau qui descendait d'un évé tout proche, dispos, joyeux, vigoureux, sûr de nous. Nous étions accoutumés à toutes les difficultés du rocher, que la force, l'adresse et le sang-froid surmontent toujours. Prudents d'ailleurs, peu enclins à tenter l'impossible, nous savions mesurer le but à nos moyens, et nous n'avions aucune envie de laisser nos os dans un jeu dont nous connaissions bien les secrets. Où aurions-nous vu du danger? Cette roche noire paraissait solide, ses déchirures nous offraient d'excellentes prises, nous luttions contre elle avec la certitude d'être les plus forts, sans nous méfier d'aucune traîtrise. Pourtant, la cheminée que nous avions cru distinguer du col nous causa quelques déceptions. Ce n'était pas une véritable cheminée, c'est-à-dire une fente continue dans le roc. C'était une succession de saillies irrégulières, parfois fort éloignées l'une de l'autre, qui offraient peu de prise aux mains et aux pieds. Je me rappelle que je dis « Voilà qui ne sera pas commode. »« Bon, » répondit Étienne, « une fois qu'on est en train. » Il ne s'agissait du reste que d'une soixantaine de mètres à gravir, au bout desquels nous trouvions un épaulement très commode, et il n'y avait pas au-dessous de nous un de ces précipices dont la hauteur fait réfléchir. C'était un danger, si l'on veut. Ce n'était pas un de ceux qui frappent l'imagination. Nous prîmes un temps de repos avant de nous mettre à la besogne. La solitude était triste et splendide. Un oiseau gris, d'un gris pareil à celui des pierriers, vint volter autour de nous. « Il faudra prendre la corde, » dit Étienne. C'était lui qui la portait. Il la déroula, et nous nous attachâmes. Et laissant là nos sacs et nos piolets pour les reprendre à la descente, nous nous mîmes à grimper. Je passai le premier, étant le plus fort. J'aidais Étienne que la petitesse de ses membres gênait. Notre effort absorbait toute notre attention. À peine si, de temps en temps, nous nous jetions d'une voix haletante un bon avis. « Prends par là, allons à gauche. » Il nous arrivait d'hésiter, de chercher, cramponné à la roche de tout notre corps. Dans un de ces moments-là, j'entendis mon ami qui se disait à lui-même « Décidément, c'est un mauvais pas. » Je répétais mentalement. « Oui, c'est plutôt un mauvais pas. » Nous avancions pourtant lentement. Je criais « Nous y sommes !» J'avais posé un de mes pieds sur la dernière saillie. Mes mains s'agrippaient à l'épaulement, dont la possession marquait la fin de notre grimpée. J'allais m'élever d'un dernier effort quand une violente secousse m'arrêta net. Je me raidis de toute ma vigueur pour ne pas lâcher prise. Étienne avait perdu pied et se trouvait au bout de la corde tendue sur une très petite saillie, les mains crispées contre la roche que la gauche seule pouvait saisir. Un pas de plus, je l'aurais hissé jusqu'à moi, mais ce pas, il ne pouvait le faire. Quant à moi, alourdi de tout son poids, je me sentais comme paralysé. Hors d'état de m'élancer jusqu'au replat qui nous aurait sauvés. Des secondes passèrent, ou des minutes, je ne sais pas. Je cherchais des yeux toutes les saillies, toutes les écorchures de notre rocher. Je n'en distinguais aucune que mon compagnon put atteindre. Mon chapeau s'était perdu. Le soleil de midi dardait ses rayons sur ma tête où passaient des galopades d'images confuses, souvenirs, désirs, regrets, comme si la vie s'éloignait. Je murmurais. Allons-nous rester là? Sans répondre, Étienne leva sur moi des yeux d'angoisse, égarés, suppliants, des yeux qui me cherchaient comme pour crier à l'aide, et qui se détournèrent quand ils eurent rencontré les miens. Je répondis à leur muet appel. « Je ne peux rien. » Et je me mis à crier. Ma voix était rauque. Mes cris se perdaient sans écho dans la solitude, sur les glaciers, par les éboulés. À les entendre, ma peur augmenta. La sueur qui me trempait se glaça sur mon corps, dans mes cheveux. Je sentis claquer mes dents. Je haletais. Personne ne nous entendra. La voix d'Étienne, très faible, épuisée, répondit. Non, personne. Il me sembla que cette voix sortait d'abîme sans fond. Je criais encore. Il ne disait plus rien. Je me tus. Il me semble entendre encore cet affreux silence. La voix de M. Lacoudre fléchit comme s'il revivait à 30 ans de distance l'indescriptible angoisse d'un tel moment. Elle devint plus basse et saccadée, et des silences prolongés interrompaient son récit. Jusqu'alors, je n'avais pas séparé de moi mon ami. Nous ne faisions qu'un. Oui, nous n'étions qu'un, là, contre ce rocher. Tout à coup, je m'aperçus que sans lui, d'un élan, je pouvais atteindre l'épaulement. Il n'était qu'un poids mort qui me retenait, qui m'entraînait. Impossible de faire un mouvement sans qu'il perdisse son point d'appui. Et quel effort tenter avec ce poids au bout de la corde qui me saignait. Alors je me rappelais la tragique ascension du Cervin, récente encore, dont le récit m'avait ému, le coup de piolet donné peut-être sur la corde tendue, et l'épouvantable tentation m'assaillit. Mon piolet était resté au bas de la cheminée, c'est vrai, mais j'avais un couteau dans ma poche. Une idée folle, n'est-ce pas? Pourtant, quand je voulus la repousser, elle resta, elle devint plus forte. Elle tournait dans ma tête, que le soleil frappait toujours. Elle devenait quelque chose comme un désir irrésistible qui fait de nous ce qu'il veut. Je ne disais plus rien, je ne criais plus. Je fermais les yeux et j'entendais mon souffle haletant et je sentais ma langue collée à mon palais. Je pouvais dégager une de mes mains, sortir mon couteau de ma poche, l'ouvrir avec mes dents. Étienne ne verrait rien, ne saurait rien. Quelques secondes à peine, et le drame accompli serait dévoré par les temps. Le magistrat s'avança vers moi, sa tête toute pâle. « Savez-vous ce qui m'arrêta ? La seule chose qui m'arrêta ? Pas l'amitié, pas la générosité, pas le devoir. La crainte, une autre crainte que je dus à ma profession. D'autres sauraient ce qu'Étienne ne saurait jamais, devineraient ce qu'il ne verrait pas. La corde coupée resterait là, témoin terrible, irréfutable, qui m'accuserait. La vérité éclaterait aux yeux de n'importe quel juge. Je le savais bien, n'est-ce pas? Et je désespérais. Quelques minutes encore. La fatigue augmente. Le soleil devient plus ardent. Je pense à ma femme, à mon enfant que je pourrais revoir. Et voici que je discute avec moi-même. L'accusé se défend contre son juge. Le coupable cherche d'avance les moyens de le tromper, en calculant avec art les moindres détails de son crime. Il y en a tant qui sont à jamais ignorés. Une fois sauvé, je redescendrai près de lui. Je travaillerai la corde pour faire croire qu'elle s'était rompue, ou je la cacherai. Je l'enterrerai, que sais-je? Oui, mon cher. J'imaginais une dizaine de combinaisons plus monstrueuses l'une que l'autre, qui ajoutaient la noirceur de l'hypocrisie à l'exécration du crime. Je fus plus rusé que le plus rusé des assassins que j'ai fait condamner, plus lâche et plus vil que le misérable de tout à l'heure. Soudain, Étienne m'appela. « Écoute, la roche cède, je ne peux plus, » je répondis, « nous sommes perdus. » Et je cherchais mon couteau. Sa voix me parvint une fois encore. « Non, pas toi. » Je lui fis l'un après l'autre les gestes mêmes que je préparais. Je vis briller son couteau dans sa main. Sans comprendre. Je vis qu'il l'ouvrait avec ses dents, comme j'avais pensé le faire. Je vis qu'il l'approchait de la corde à la hauteur de sa ceinture. Alors je compris, je criai, désespérément, « Étienne, non, non, je t'en conjure !» Mais la corde céda. Je vis son corps tourner sur lui-même. Un pâtre qui va entendre nos cris arriver à notre secours. Le conseiller se tut longuement, en reprenant peu à peu possession de lui-même. Quand il eut recouvré son sang-froid, il conclut de sa voix nette, cassante, autoritaire, qui produisait toujours si grand effet à l'audience. « Voilà comment j'ai appris à lire dans les cœurs. Vous me direz qu'à côté de la lâcheté dont je fis preuve, le dévouement sublime de mon ami suffit à relever l'humanité. Mais je me flatte que son cas serait extrêmement rare, et le mien fréquent. J'ai besoin de le croire pour pouvoir, en jugeant les autres à leur prix, garder un semblant d'estime de moi-même. » C'était La Pointe d'Arbola par Edouard Rode.